Bon réveil, il est 6h sur Europe 1.
Je ne suis pas sûre que ces demi-mesures soient suffisantes pour arrêter le flux des hospitalisations, parce que ça prend au moins 15 jours. Et là, on n'a plus trop de temps d'attendre.
Le littoral des Alpes-Maritimes sera confiné lors des deux prochains week-ends pour tenter de freiner la propagation du virus. Mais qu'en est-il des autres villes où l'épidémie repart de plus belle? En France, le nombre de patients en réanimation a atteint son plus haut niveau depuis près de 3 mois. Emmanuel Macron se rend auprès des agriculteurs ce matin en colère contre la grande distribution. Il réclame plus de rémunération. Et puis au moment où chacun doit porter son masque, les pionniers de l'électro-française raccrochent le leur. Les Daft Punk se séparent après quasiment 30 ans de carrière et de tubes interplanétaires.
À suivre les sports et puis avec mon invité inattendu, on va parler de l'agriculture. C'est un écrivain, un académicien qui rêve de finir sa vie comme paysan. Il vient nous raconter ça dans un quart d'heure. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
De Menton à Théoul-sur-Mer, en passant par Nice, le week-end prochain et le suivant, toute cette zone des Alpes-Maritimes sera confinée pour essayer d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Pourtant, la situation semble se dégrader dans tout le pays. Plus de 3400 malades sont actuellement en réanimation, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis début décembre. Anne Le Gall, c'est vrai que certains compteurs de l'épidémie posent question.
Effectivement, certaines données interrogent. Le nombre de contaminations quotidiennes en France est en hausse depuis 6 jours. C'est du jamais vu depuis le début du mois de février. Depuis dimanche, le nombre des hospitalisations augmente également au niveau national, avec des tensions plus marquées dans les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, de l'Isère, de la Moselle, du nord du Rhône et dans certains endroits de l'Île-de-France. Alors, cette tendance à la hausse est-elle durable? Est-elle inquiétante? Formellement, il est encore trop tôt pour conclure, mais il est vrai qu'elle correspond à des projections qui ont été faites par différents épidémiologistes. Au niveau du calendrier, elle concorde avec la propagation du variant britannique, qui est déjà dominant dans certains départements et qui devrait le devenir dans la première semaine de mars au niveau national.
Et du coup, dans ce contexte, Anne, est-ce qu'on peut se dire que ce confinement local, comme décidé dans les Alpes-Maritimes, est la bonne solution ?
Alors oui, le fait de proposer un confinement ciblé le week-end permettra de freiner la propagation du virus. C'est une bonne idée, estime le professeur Philippe Amouyel, médecin de santé publique à Lille, notamment parce que beaucoup de contaminations se font le week-end dans la sphère privée, dans les moments de convivialité. Mais ce médecin s'interroge du coup sur un élargissement de ces restrictions à d'autres départements.
D'autres villes sont en train de subir le même sort que Nice, hein, que ce soit la Moselle. Dunkerque, où aujourd'hui les chiffres ont déjà atteint plus de 900 cas pour 100 000 habitants. Là encore, on peut se demander s'il ne serait pas urgent de mettre en place un confinement local et impliquer dans cette boucle un certain nombre des communes de la communauté de Dunkerque.
Mais pour être efficace, ces mesures de confinement ciblé doivent être prises suffisamment tôt, dit-il. Sinon, le risque, c'est de devoir frapper plus fort plus tard.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Outre-Manche, en revanche, la Grande-Bretagne va alléger son dispositif après un mois et demi de reconfinement.
Certaines écoles galloises et écossaises ont rouvert leurs portes hier. En Angleterre, elles accueilleront à nouveau les élèves à partir du 8 mars. Une sortie des restrictions en 4 étapes annoncée hier par Boris Johnson. Réaction à Londres avec Anaïs Cordova.
Après 49 jours de confinement, ces Londoniens vont encore devoir patienter pour un retour à la normale, mais la fin de l'incertitude est un soulagement.
J'ai hâte de pouvoir retourner dans les magasins, me couper les cheveux, retourner à la salle de sport, à la piscine.
Je veux retourner au pub, je compte vraiment les semaines.
J'ai hâte de reprendre le tennis. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils n'ouvrent pas les cours de tennis plus tôt.
Retour des sports en extérieur le 29 mars, réouverture des commerces non essentiels le 12 avril, des restaurants et des cinémas le 17 mai. Enfin, retour à la normale le 21 juin. Pour justifier cette lenteur, Boris Johnson promet « Nous sommes dans une voie à sens unique vers la liberté. 46% des Anglais soutiennent sa prudence, comme James et Peta. »
Je préfère un retour à la vie normale lent plutôt qu'agir trop vite et devoir finalement tout recommencer.
On ne pourra pas se permettre de reconfiner, ce serait insupportable mentalement et financièrement. Donc oui, il vaut mieux procéder lentement.
Boris Johnson mise aussi sur la vaccination. Selon des données préliminaires au Royaume-Uni, elle réduirait les hospitalisations d'environ 90%. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Aux États-Unis, ce sont les cinémas de New York qui vont bientôt pouvoir rouvrir partiellement le 5 mars prochain, soit quasiment un an jour pour jour après leur fermeture pour cause de pandémie. Dans le pays, la barre des 500 000 morts du Covid a été franchie hier. Dans l'actualité aussi, Francis Lalanne est visé par une enquête pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. En janvier dernier, le chanteur français, figure des Gilets jaunes, avait publié une tribune dans le journal France Soir, dans laquelle il appelait à la mobilisation générale et à la destitution d'Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, justement, qui se rend à Étaul aujourd'hui en Côte d'Or à la rencontre des agriculteurs, alors que leur colère gronde contre la grande distribution.
Ils accusent le secteur de ne pas jouer le jeu et de tirer les prix vers le bas, en dessous même des prix de production. Et cela met les exploitations en danger, alors que les professionnels sont déjà touchés par la crise sanitaire. Stéphane Frangy.
Ces salades ne se sont jamais aussi mal vendues. Patrick Lévesque est maraîcher dans le nord des Bouches-du-Rhône, président de la FRSEA. Il dénonce la gourmandise de la grande distribution.
Alors une salade à produire, elle coûte au minimum 30 centimes. Aujourd'hui, elle se vend 15-20 centimes. Il y a une bagarre qui a repris dans la grande distribution. Ils sont en train de se tirer la bourre, hein, entre eux, toujours moins cher. Ils nous tordent au passage.
Tout type d'exploitations agricoles sont impactées, confirme Thomas Chollier, président des jeunes agriculteurs des Bouches-du-Rhône, également viticulteur. Près d'Aix-en-Provence, ces cuves sont remplies rempli d'hectolitres d'invendus.
Alors que les années précédentes, il était déjà commercialisé. Si c'est pas vendu, ça peut être le cas qu'on soit contraint de vider les cuves et de jeter notre vin.
Une difficulté supplémentaire dans un secteur déjà fragilisé, sans la restauration, sans l'événementiel, peu de débouchés. Et l'inquiétude gagne Laurent Dubosc, qui est coopérateur vigneron dans le pays aixois.
Il va falloir y arriver, quoi, aller passer ces années. Voilà, moi j'ai un programme de plantation assez important. Est-ce qu'il ne faut pas se diversifier? Toutes les questions sont sur la table, quitte à modifier mon projet d'installation.
Et tous demandent à la grande distribution de revoir ses prix, mais également aux acheteurs de consommer local. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et on va reparler de ce sujet des négociations avec la grande distribution avec Serge Papin tout à l'heure. C'est l'ancien patron de Système U. Il est mon invité à 6h40. Il est aujourd'hui médiateur entre les producteurs d'un côté et la grande distribution de l'autre.
L'objectif des 10 millions de vues se rapproche à grands pas pour les deux youtubeurs McFly et Carlito. Leur vidéo spéciale Geste Barrière, commandée par Emmanuel Macron, cumule déjà près de 8,5 millions de vues moins de 48 heures après sa publication.
Oui, on vous en parlait dès hier, hein, en cas de réussite, s'ils atteignent les 10 millions. Et c'est presque fait, les deux vidéastes auront l'autorisation de venir tourner à l'Élysée avec le président lui-même. Mais Jean-Rémy Baudos, qui se cache derrière cette vidéo, c'est aussi une nouvelle stratégie de communication d'Emmanuel Macron.
Oui, depuis quelques mois, une communication présidentielle plus directe, plus personnelle et évidemment plus connectée. On est passé à la com 4.0, décrypte un membre de l'Élysée. Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, en interview sur le média en ligne brute, se filmant lui-même depuis son isolement Covid et désormais en dialogue avec des youtubeurs pour parler gestes barrières. Le ton a changé. À une époque, ce genre d'idée ne remontait pas au président, reconnaît un collaborateur. Derrière ce changement, une volonté politique, mais aussi un homme. Clément Léonard Duzzi, un cadre ancien de chez Publicis, arrivé fin août à la tête de la communication élyséenne. Avec ses équipes, il modernise, prend des risques, change les codes, il impose le rythme autant que parfois le président. Récemment, il a placé le chef de l'État par surprise dans un 20h. Clément sent très bien le pouls de ce qui se passe, affirme un conseiller. Il a sorti le président de son image attendue sans abîmer sa stature, confirme un autre. Est-il pour autant un bon atout pour Emmanuel Macron en 2022 ? Rares sont ceux qui en doutent au gouvernement, car comme le confie ce membre de cabinet, pour chaque cible, on a désormais un message et un canal. On est déjà dans une com de campagne électorale.
Voilà, une com de campagne électorale donc qui utilise Internet, plus de 8 millions de vues pour ces deux youtubeurs McFly et Carlito. C'est toujours moins tout de même que les plus de 9 millions et demi même cumulés en quelques heures tout juste par les Daft Punk.
Et le duo français iconique de la scène électronique a annoncé sa séparation dans une vidéo très solennelle baptisée Épilogue. On les voit avancer lentement dans le désert portant leur casque emblématique qui cachent leur visage avant de s'autodétruire sur une musique presque mystique. Une sortie en grande pompe. Il faut dire que leur héritage artistique est phénoménal, avec des millions de disques vendus partout dans le monde. Angèle Châtelier.
Ce qui a fait la force des Daft Punk, c'est d'avoir toujours su se renouveler. Il y a d'abord eu leur premier album, Homework, en 1997, aux sonorités électro, qui marque le début de la French Touch. Puis Discovery, leur deuxième album, sorti 4 ans plus tard, qui est plus pop, plus disco. Celui qui suit, Human After All, revient à la dance music. Leur capacité à innover constamment en 28 ans de carrière, c'est ce qui a fait leur succès, explique Yves Bigot, journaliste et auteur d'un ouvrage sur les Daft Punk.
Toute la musique électronique leur doit énormément, et y compris ce retour à la musique organique, hein, avec Random Access Memory et puis Get Lucky, et qui était une façon de boucler la boucle, hein, de partir de l'électronique pure de leur début et de revenir en fait à de la musique naturelle et jouer qui était celle qu'ils avaient aimée avant même de passer à l'électro. Peut-être qu'ils ont considéré que cette boucle était bouclée, ou en tous les cas pas aller plus loin. Mais oui, leur héritage au niveau de la musique mondiale, il est immense.
Pour preuve, rien que leur dernier album s'est vendu à près de 4 millions d'exemplaires dans le monde.
On reconnaît Get Lucky, chanté par Pharrell Williams.
Il restera des tubes.
1993-2021. Voilà, ouais. Belle performance pour les Daft Punk.